OK, Exode 32, versets 1 à 14. Exode 32, versets 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « Le grand péché de la contrefaçon religieuse ». Alors, on va regarder le texte sous trois angles différents. La première, c'est la contrefaçon qui avait été décidée dans les versets 1 à 6. Dans le verset 7 à 10, la contrefaçon qui est dénoncée par l'Éternel lui-même. Et verset 11 à 14, la contrefaçon qui est déracinée. On va voir de quelle façon. C'est très important lorsqu'on étudie le tabernacle de voir les séparations qu'il y a dans le texte. Sans ça, on manque un peu le bateau. Ça commence au chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40, le tabernacle. Mais de 25 à 31, c'est Dieu qui dit à Moïse ses exigences quant à la façon de construire le tabernacle. À partir du chapitre 32, aller jusqu'au chapitre 34, c'est comme une parenthèse. On nous montre ce que Dieu voulait pour construire le tabernacle. De 32 à 34, il nous montre comment le peuple a réagi. Dès que Moïse est remonté sur la montagne, ils sont sombrés, toute la gang, dans le péché. Et à partir du verset 35, on va voir que ça reprend. Et c'est très important de voir pourquoi le Seigneur a mis le veau d'or après que le Seigneur lui-même a eu donné les instructions quant à la manière de faire le tabernacle. Le tabernacle, c'est un symbolisme qui représente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et dès que Moïse est remonté sur la montagne, qui était leur médiateur, c'est un peu comme nous, après que le Seigneur a eu quitté la terre, qu'est-ce qu'on a fait avec sa loi? Est-ce qu'il n'y aura pas des petites similitudes entre ce que le peuple d'Israël a fait et ce que nous, on serait tentés de faire? Parce que ici, Dieu voit l'ensemble de son peuple dans son ensemble. Il ne voit pas nécessairement ceux qui sont fidèles. Sûrement que dans l'ensemble, il y en avait qui étaient fidèles. Mais l'ensemble de son peuple, dès que le médiateur a été monté sur la montagne, là, il ne voyait plus leur libération d'Égypte comme étant une libération divine. Il le voyait comme une libération humaine. Il disait, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, il ne voyait plus la main de Dieu. Ils sont sombrés dans le péché d'idolâtrie en se faisant un Dieu qui remplaçait le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Alors, c'est un passage important parce que ça nous montre les exigences de Dieu avec le symbolisme du tabernacle jusqu'à la fin du chapitre 31. 32-34, c'est la chute du peuple dans le péché. Et après, Dieu redit à Moïse de reprendre les tables de la loi et de les replacer dans le propitiatoire et de les replacer dans le fameux coffre de l'Alliance. Quelle est l'image qui nous est véhiculée par cette idée-là? Dieu exige des choses de nous dans la loi. L'être humain, par sa chute, n'a pas été capable d'accomplir les exigences de Dieu. Mais Dieu ne dit pas, « OK, vous n'êtes pas capable, on va changer les règles du jeu. » Il a redonné les tables de la loi à Moïse et il a dit de les mettre dans le coffre de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'on a dit que ça représentait le coffre de l'Alliance? À la fois l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Autrement dit, la loi que je vous exigeais que vous accomplissiez, elle est à l'intérieur de Jésus, du Christ. Alors, si aujourd'hui on se dit justifié et que nous, Dieu nous voit comme si on avait accompli la loi à la perfection, ce n'est pas notre obéissance, c'est l'obéissance du médiateur, l'obéissance de Jésus-Christ. Dans le tabernacle, c'était représenté par le coffre de l'Alliance. Alors, on voit les exigences de Dieu, la chute. Et Dieu ne dit pas, maintenant, on change la game, on change les règles du jeu. C'est encore la loi qui nous dit les exigences que j'ai si vous voulez vivre en ma présence. Cependant, il les place dans le coffre. Et là, ça veut dire que Dieu a accompli dans son Fils, la loi a été accomplie par son Fils Jésus. Et quand on croit à la fois que Jésus a subi notre châtiment, celui que nous aurions dû subir en enfer, il a subi l'équivalent à notre place. Et en plus, il a accompli le fameux décalogue, la loi morale que Dieu exigeait que nous accomplissions à sa place. Très important de saisir ça parce que si on lit le tabernacle, qu'on ne voit pas ça, on manque un super de gros morceau. Alors, c'est ça, on rappelle que dans les chapitres 25 à 31, Dieu donne ses instructions à Moïse sur la manière de construire le tabernacle et tout ce qui y est relié. Alors, si vous avez suivi au cours des 20 dernières leçons, on a vu beaucoup de choses. Au verset 18 du chapitre 31, Dieu remet les tables du décalogue à Moïse. Décalogue, c'est les 10 commandements. Dans Exode 31, verset 18, ça dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Et on se souvient que les deux tables, la première, c'est les quatre premiers commandements, sont les quatre devoirs que nous avons envers Dieu. Et les six autres, la deuxième table, c'est les devoirs que nous avons envers notre prochain. Et Dieu n'a pas changé ses exigences quant à ces choses-là. Et c'est important de voir aussi que le décalogue a été écrit avec le doigt de Dieu. Donc, c'est quelque chose de divin, le décalogue. C'est quelque chose qui ne, même après notre salut, la loi continue d'avoir un rôle dans notre vie pour nous apprendre pour nous montrer jusqu'à quel point la loi est exigeante. Et on a encore une certaine obéissance, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais. Mais c'est quand même pour nous montrer un modèle, quelque chose, une direction vers laquelle aller. Mais c'est pas nous qui l'accomplit, c'est Jésus, le Christ. Ça, c'est très important de saisir ça. Si quelqu'un ne saisit pas ça, là, il y a un problème. Alors, le chapitre 32 à 34, ça constitue une parenthèse et ça vient relater comment le peuple de Dieu réagit après que leur médiateur fut monté sur la montagne. Ça n'a pas été long, là. Les tables de la loi, verset 31-18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Verset 32, ça commence. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre à la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux, on connaît le reste. » C'est très significatif de voir que Dieu monte ses exigences et n'a pas aussitôt fini de démontrer que le peuple tombe dans le péché et que pour eux, la loi n'a plus de place et que là, ils confondent celui qui les a délivrés avec un homme. Moïse était un instrument dans les mains de Dieu. Il n'était pas Dieu lui-même, c'est Dieu qui avait fait tout le travail de sortir d'Égypte et d'ouvrir la mer Rouge et toutes ces choses-là, et toutes les plaies d'Égypte. C'était le travail de Dieu. Il se servait de Moïse comme d'un instrument qui frappait ici, frappait là, emmenait telle plaie, mais c'était quand même le Seigneur. Et là, ça faisait pas longtemps que le Seigneur leur avait donné tout ça, que déjà, ils sont prêts à se créer, sombrer dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça peut venir nous apprendre à nous aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un danger après notre salut, nous aussi, que de tomber dans une certaine forme d'idolâtrie? Ça, c'est de l'idolâtrie qu'on peut dire grossière. Le peuple a voulu se faire un veau qui venait d'un dieu égyptien qui s'appelait Apis, et ils ont voulu adorer un dieu qu'ils avaient connu alors qu'il était dans l'Égypte, alors qu'il était dans la souffrance et dans l'oppression par le peuple égyptien. Ils ont voulu faire ça. Le fait qu'il était en or, et le fait aussi que c'est relié avec la débandade morale. Parce que ce que ça dit dans le texte, dans le fond, c'est un gros party qu'ils ont fait. Ils ont commencé par de l'idolâtrie, après ça, ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont bu, et après ça, se divertir, là, c'est vraiment la débandade morale. Alors, on voit comment le peuple, même le peuple de Dieu, est disposé, porté vers le mal, et c'est très humiliant pour nous. Puis c'est une bonne chose que ça nous humilie, parce que ça nous fait voir notre faiblesse, ça nous fait voir notre fragilité, notre tendance à pécher. Alors les chapitres 32 à 34, c'est vraiment la parenthèse. Il est aussi utile, à ce moment-ci, de se rappeler que quand le Seigneur a donné le décalogue ou les 10 commandements à son peuple, comment le peuple avait-il réagi à la réception de la loi? Il y a 3 choses importantes à se souvenir. Ils étaient d'abord bien disposés à obéir à ce que Dieu leur demandait. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Imaginez-vous, c'était un petit peu prétentieux de leur part. Ils entendent la loi, ils entendent le décalogue. « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » C'est ça qu'on voit ici. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Deuxième chose concernant comment il avait reçu la loi. Le peuple avait demandé que Dieu ne leur parle plus directement, mais seulement par l'intermédiaire d'un médiateur. Quand on se souvient de comment la loi avait été donnée, il y avait eu des éclairs, du tonnerre, la montagne avait branlé, je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience un petit peu de tremblement de terre, c'est terrifiant, mais je suis sûr que là, ça devait trembler pas ordinaire. Le peuple était tellement terrifié de la voix de Dieu dans ses commandements, qu'ils avaient demandé à Moïse de demander à Dieu, « Nous ne voulons plus entendre Dieu directement parce que ça nous donne, comme on dit en québécois, les kettles. » Exode 20, versets 18 et 19, « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Alors, voyez-vous, à la loi, il était bien disposé à l'obéir, mais il voulait un intermédiaire entre eux et Dieu. Nous aussi, on a besoin d'un intermédiaire entre nous et Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Troisième constatation concernant la réception de la loi. Au moment où le peuple tomba dans l'idolâtrie du veau d'or, Moïse était sur la montagne. Moïse est le médiateur. Christ est le médiateur pour la Nouvelle Alliance. Christ est comme retourné, on pourrait dire, en quelque sorte, sur la montagne. Et ici, ça vient nous démontrer que même après que le Seigneur est retourné, il y a encore un danger qu'on tombe dans certaines formes d'idolâtrie. Alors, Exode 32, verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Ça ne lui prenait pas un gros prétexte, hein? Tomber dans le péché. Alors, ces chapitres illustrent de façon saisissante la faiblesse humaine et son inclination naturelle à désobéir à Dieu, à ne pas rencontrer ses exigences et à sombrer dans l'idolâtrie. Il nous montre la corruption du cœur humain. Le premier point qu'on va regarder, c'est la contrefaçon décidée. On va voir si c'est quelque chose qui était vraiment une décision collective du peuple de tomber dans le péché. C'est une décision délibérée. Quand on dit « quelqu'un a fait un crime de façon délibérée », qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont eu le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire et ils ont décidé de le faire. Une décision délibérée, verset 1. Ils décidèrent collectivement de passer d'un Dieu unique à des dieux au pluriel, avec un petit dé. Ils décidèrent ainsi de changer d'une libération divine à une libération humaine, puisqu'ils ont dit, ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, oui, Moïse est impliqué comme instrument, mais ultimement, ce n'était pas Moïse qui s'est fait sortir le peuple d'Égypte, c'était Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, là où on raconte comment Étienne a agi, lorsqu'il, ça nous dit dans Actes 7, versets 35 à 40, ici, Étienne vient rappeler aux Juifs leur grossière erreur lorsqu'ils ont fait cette erreur-là de changer Dieu pour un veau d'or. Dans Actes 7, versets 35 à 40, c'est Étienne qui parle, il rappelle au peuple juif leur erreur. Il dit, « Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Quel était l'ange? Jésus-Christ. C'est lui qui les a fait sortir du pays d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent point lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Voyez-vous, changer d'un Dieu unique, omnipuissant, omnipotent, et toutes les qualités que Dieu avait manifestées lors de leur sortie d'Égypte, et Moïse, le médiateur, est aussitôt remonté sur la montagne, comment le peuple réagit. C'est vraiment humiliant de voir jusqu'à quel point l'être humain est porté au péché. Le Seigneur nous rappelle dans le Nouveau Testament que ces choses nous ont été données pour servir d'exemple et pour nous instruire. Quand on lit, moi j'ai déjà entendu une fois une dame dans une église à l'extérieur d'ici, dire, moi l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Je regrette, mais on ne se doit jamais de considérer l'Ancien Testament de cette façon-là. Jamais. Parce que le Seigneur, il y en a qui ont tendance à aller juste dans le Nouveau, parce que ça fait les affaires. Je ne dis pas de parler dans le Nouveau. Mais je dis que l'Ancien, le Seigneur nous l'a laissé pour des raisons très précise qu'il nous a lui-même donnée. Alors, si le Seigneur nous dit que le livre de l'Exode, ça peut servir à deux choses. Nous servir d'exemple, qu'il nous dit, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11, on va le lire tantôt. Nous servir d'exemple et pour nous instruire. Qu'est-ce que le fait que le peuple tombe dans l'idolâtrie avec un veau d'or, qu'est-ce que ça vient nous donner comme exemple? Et qu'est-ce que ça vient, de quelle façon ça vient nous instruire? Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, on va aller les lire, le peuple nous dit, le Dieu nous dit que l'Ancien Testament, ça nous a été donné à la fois pour nous servir d'exemple. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, il faut toujours se demander, quel est l'exemple que tu es en train de vouloir me montrer, Seigneur? Quelle est la chose dont tu veux m'instruire lors de ma lecture ce matin? Une lecture, on est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a des choses à nous apprendre ce matin, nous concernant son Fils. 1 Corinthiens 10, 1 à 11, pour moi qui l'invente, on va le lire ensemble. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, s'il fait référence à la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Ça peut être plus clair que ça. Quand on regarde tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, si on veut avoir la clé d'interprétation de l'Ancien Testament, cherchez Christ. Christ est partout présent dans l'Ancien Testament. Il suffit de se questionner, de méditer un peu sur le sens. Des fois, c'est des symboles, des fois, c'est des types, toutes sortes de choses comme ça. Mais les Écritures, l'ensemble des Écritures nous parlent. La preuve, sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur, il s'en allait avec eux. Il dit, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existait même pas à cette époque-là. Quand Christ est venu sur la terre, le Nouveau n'existait pas encore. Il leur expliquait dans les Écritures tout ce qui le concernait. Les prophètes, l'Ancien Testament, la loi, toutes ces choses-là. Il a dû passer avec eux autres l'ensemble de l'Ancien Testament pour leur montrer que ça parlait du Christ à venir et que maintenant, il était là. Il aurait dû le réaliser, mais en tout cas, ça lui a pris un petit peu de temps. On était rendu, était Christ. Verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ils ont tombé dans le désert, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un même jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. On sait que tu as une imagerie derrière de ça. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Là, il parle dans le Nouveau Testament. Il parle à nous, pour nous servir, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 2, c'est une version qui est entérinée par les chefs. Aussitôt que le peuple a dit ça au leader, il me semble que le leader, s'il aurait été un vrai leader, il aurait dit, « Oh, les moteurs, vous vous rappelez pas que c'est pas un homme qui nous a sortis d'Égypte? Vous vous rappelez pas que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante? » Et là, il aurait pu n'en mettre. Il dit, « On se calme? » Non. On voit ici l'influence que le peuple peut avoir chez les leaders. C'est une leçon aussi à retenir pour nous. C'est qu'il faut faire attention que notre règle, c'est la Bible. Ce n'est pas le peuple. Aujourd'hui, il y a une tendance dans l'Église que les Écritures nous disent qu'à la fin des temps, les gens vont se donner des leaders parce que les oreilles vont leur démanger, ils vont vouloir se donner des leaders qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est facile de tomber dans ce piège-là. Parce que la Bible, des fois, accuse. nous accuse, nous. Et c'est humiliant. Et toujours rester dans des doctrines qui dérangent pas, qui défrisent pas, comme on dit, c'est comme l'élection, tu sais. On peut pas être dans une église, croire à l'élection, croire à la prédestination, puis pas la prêcher. Si on y croit, faut la prêcher. Alors, il y a des choses comme ça, faut pas se laisser, même si ça déplaît au peuple. C'est ça que Dieu dit. Il faut se maintenir à ce que Dieu dit. Et ici, on voit un exemple d'un leader qui s'est laissé corrompre, influencer par la très basse moralité du peuple. Voyez-vous, ils ont dit, fais-nous, il est pas, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a pas dit, ben là, il les a repris, il a même pas essayé. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, et vos fils et vos filles, apportez-les-moi. Alors, c'est une décision qui est entérinée. Quand on dit qu'il faut qu'une décision soit entérinée, c'est qu'il fallait qu'elle soit... C'est comme le peuple a demandé, le chef l'a accepté, non, on y va. C'est ce qui s'est passé. Nous voyons ici le rôle des leaders qui cèdent et encouragent les désirs illicites et mondains du peuple. C'est aussi, verset 3, une décision qui est collective. C'est pas que c'est une petite gang qui faisait pas leur affaire. C'est l'ensemble du peuple d'Israël. Voyez-vous, le péché était très, 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 très grave. Verset 3, et tous, ça dit pas, et quelques-uns, et un petit groupe, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Une décision collective exprime leur unité de pensée. Quatrième verset, une décision qui était flagrante. Le veau d'or était un reliquat de leur séjour en Égypte. On a dit tantôt, Apis, s'il y en a que ça vous intéresse, il faut aller voir dans les dictionnaires bibliques ou dans les dictionnaires de mythologie égyptienne et vous allez avoir une multitude de détails, mais souvent, l'idolâtrie d'Apis était souvent reliée au péché sexuel. Alors, c'est pas pour rien que le peuple, après qu'ils se sont levés, ils ont bu, ils ont mangé, qu'ils sont tombés dans le désordre complet. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film Les Dix Commandements, quand même, ça fait quand même plusieurs années. Qu'est-ce qu'on voyait? C'est qu'on voyait que c'était tombé, tout le monde était tombé dans l'orgie collective. L'orgie collective, on rit plus, là. Et eux autres, ils disaient que leur veau d'or, là, c'était leur Dieu. Alors, c'est une décision dans le psaume 126, versets 19 à 23. Le Seigneur leur dit, « Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. » Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Verset 5, c'est une décision qu'on pourrait qualifier de dissimulée. Verset 5, voyez-vous, quand le peuple tombe dans l'idolâtrie, il cherche toujours à abrier son idolâtrie sous des jours favorables. Voyez-vous, verset 5 dit... Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant Dieu, il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur d'Apis. » C'est ce qu'il dit. Non, il dit, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Il était tombé dans la plus grande forme d'idolâtrie possible, imaginable. Puis encore, il essayait de faire passer ça, que c'était de l'adoration à Dieu. Hey, quand tu regardes ça, c'est terrible. « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Alors, on y va. Une décision dissimulée. Un exemple d'idolâtrie grossière qui veut s'envelopper de respectabilité, qui veut s'envelopper de divin. Romains 1, versets 19 à 23 nous rappelle ces choses. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, Et verset 23 est très significatif. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez-vous, ici, il était tombé dans les quadrupèdes. C'était un veau. Et il était tombé qui adorait ça au lieu du Créateur. Adorer la créature au lieu du Créateur. Une des erreurs fondamentales de l'homme. L'homme a une tendance naturelle à confondre volontairement la créature au lieu du Créateur. Par exemple, aujourd'hui, il existe dans la société des adorateurs de Satan. Satan est une créature. Dieu est le Créateur. Alors, les gens qui adorent Satan, ils confondent le Créateur avec la créature. Satan aussi séduisant, aussi beau qu'il puisse être, il est absolument un grain de poussière, mais même moins comparé à Dieu. C'est épouvantable ce que les êtres humains sont capables de faire. Et à cette heure, une chose qui est très à la mode ce temps-là, c'est les anges. Les êtres humains communiquent avec les anges qui sont censés être autour d'eux. Prenez-vous dans les magasins et regardez la quantité de livres qui sont écrits sur les anges, vos compagnons, vos conseillers, tout ce que vous voudrez. C'est encore une autre façon pour les gens de confondre le Créateur avec la créature. Les astres, les gens au cours des époques ont adoré le soleil, ont adoré les étoiles, ont adoré les planètes, ont adoré les éléments, ont adoré le feu, ils ont adoré l'eau, ils ont adoré des animaux, comme on vient de voir là, ils ont adoré des poissons, comme on vient de voir dans le texte, ils ont adoré des quadrupèdes, toutes sortes de quadrupèdes, ils ont adoré aussi leurs passions et leurs imaginations. Verset 6a. On voit que c'est une décision humaine. C'est le verset 6a, si on ne fait pas attention, il y a quelque chose qu'on manque. Ça dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des actions de grâce. Voyez-vous, quand mon titre disait le grand péché de la contrefaçon religieuse, dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait un sacrifice pour le péché. Dans ce sens qu'on prenait un animal, on l'égorgeait, on le vidait de son sang, on le mettait sur l'autel d'airain, on mettait le feu en dessous et on faisait brûler l'animal au complet. C'était pour le péché. Voyez-vous, eux, ici, ils offrent des holocaustes et des actions de grâce. Il n'y a pas de sacrifice pour le péché. Quand il y a une contrefaçon de la véritable religion biblique, souvent, c'est la première chose qu'on va mettre à côté. Plus de sacrifice pour le péché. Et la deuxième partie, on voit que c'est vraiment dépravé, verset 6b, la dernière partie. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Mais quand on regarde les commentaires, on voit que c'est pas un divertissement, le danser des sept carrés. C'était vraiment beaucoup plus grave que ça. C'était vraiment une orgie collective. Fait que c'est pas très flatteur de voir comment Puis il faut se rappeler ici que c'est pas les nations environnantes, c'est le peuple de Dieu qui était tombé dans ça. Deuxième point qu'on va regarder, la contrefaçon dénoncée. Alors, à partir du verset 7, on voit une dénonciation de ce qui se passe. Et là, l'Éternel intervient. Et remarquez bien de quelle façon l'Éternel s'adresse à Moïse. Parce qu'il dit... L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Il dit pas car mon peuple. Il dit car ton peuple. Là, il ne le considérait plus comme son peuple. Il dit car ton peuple. Vous allez voir qu'il va y avoir une bataille, si on peut dire entre guillemets, entre la manière de parler du médiateur et la manière de parler de Dieu. Dieu dit ça, c'est ton peuple. Et on va voir qu'à tout à l'heure, Moïse va dire, c'est ton peuple. Et ils vont en quelque sorte s'envoyer la balle. Mais on va voir que celui qui est dans le milieu, c'est la personne importante pour déterminer c'est qui est le peuple. Le peuple de qui? C'est le médiateur qui va déterminer le peuple, c'est le peuple de qui. Donc, c'est une dénonciation divine. L'expression « ton peuple » indique que le peuple de Dieu devient le peuple du médiateur. Est-ce qu'on fait le lien avec le Nouveau Testament? Le peuple de Dieu devient le peuple du médiateur, le peuple de Christ, qui est représenté ici par Moïse. C'est une dénonciation aussi qui est catégorique, verset 7. Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est corrompu. Il ne va pas avoir un meilleur exemple de corruption que ça. Et là, c'est l'Éternel qui parle. Quand l'Éternel dit ton peuple, c'est corrompu, pose-toi pas de questions, ils sont corrompus. Une dénonciation aussi qui est omnisciente, verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui est impliqué là-dedans? C'est qu'ils ont désavoué celui qu'ils avaient délivré. Leur délivreur, qui était Dieu lui-même. Ils ont désobéi à sa loi. Remarquons les déclarations qu'ils avaient faites 5 mois avant. Dans le texte, on peut savoir qu'ils avaient fait ça 5 mois avant. Exode 15, versets 1 à 11. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Voyez-vous, cette attitude après la sortie de la mer Rouge. Et là, on voit qu'il était dans un bon état d'esprit. « C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Ils ont lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Voyez-vous, ça faisait 5 mois de ça, là. Ça faisait pas une éternité, là, que là, il était tout en exaltation devant ce que l'Éternel avait fait, qu'il était conscient de ce que Dieu avait fait pour eux. Et là, ça fait pas 5 mois de ça, ils sont déjà dans le péché la plus grave. Dénonciation aussi qui est un peu... On pourrait qualifier de lucide, verset 9, le Seigneur voit clair. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple de cou roide. » Dans la version 1910, ils disent « roide », dans d'autres, ils l'ont traduit « raide ». Dans le fond, ça veut dire que tu as le cou raide, tu es têtu, tu es tête de... En québécois, on dit tête de cochon. C'est Dieu qui porte son jugement sur son peuple. Il dit, c'est terrible comme son tête dure. C'est un peu humiliant, hein? Parce que nous aussi, on est le peuple de Dieu. Nous aussi, on peut tomber dans des péchés d'idolâtrie. Et quand on tombe dans le péché d'idolâtrie, on ne fait pas bien, bien mieux qu'eux autres. On fait exactement la même chose qu'eux autres. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans le verset 10. Le Seigneur était tellement déçu de voir l'état de son peuple qu'il a voulu les détruire. Verset 10. Il dit à Moïse, « Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. » On parle de feu. « Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Ça veut dire que l'Éternel aurait pu, si Moïse n'aurait pas été une personne qui aurait intercédé, qui se serait tenue à la brèche, le Seigneur aurait pu refaire une nouvelle nation à partir de Moïse. Et il leur dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Alors, c'est se faire dire par Dieu que tu es un peuple au cou raide, ça vient nous démontrer que le peuple de Dieu a la fâcheuse tendance à l'insubordination. Et là, il dit, je les consumerai, verset 10. Et c'est à partir du verset 11 qu'on peut voir l'intercession du médiateur. Et nous, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et si ce n'avait été du médiateur, nous aussi, on aurait pu être détruits. Alors, quand on regarde le verset 11 à 14, on voit que c'est un déracinement qui est médiatorial. C'est le médiateur qui intercède auprès de Dieu. Non, ne les détruit pas. Voyez-vous, on va regarder le verset 11. Moïse, et là, on n'utilise pas un petit mot, là. Dit pas Moïse, plaida, implorer. Si jamais quelqu'un vous dirait, prends une carabine, puis vous la mets ici, puis il a le doigt sur la gâchette, je peux vous garantir que vous ne diriez pas, ah ben là, peut-être ça te tenterait-tu d'enlever ton doigt de sa gâchette? Implorer, c'est implorer, là. S'il vous plaît, t'sais, c'est comme là, ton âme a devenu à fond, ton cœur fond. Alors c'est ça qui est arrivé, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple et que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Voyez-vous, la bataille de ton peuple, et là, c'est le médiateur qui dit à Dieu, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Il dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte. Le verset 11 nous parle de la grâce de Dieu. Le médiateur représente le peuple au Père en tant que son peuple. Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Verset 12, on voit aussi l'autre argument qu'il utilise, c'est la gloire de Dieu. Verset 12, il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ici, juste une petite remarque en passant, quand on parle de la repentance de Dieu, c'est jamais dans le même sens que l'être humain. Si on veut savoir ce que ça veut dire, Dieu se repent dans les Écritures, il faut prendre toutes les Écritures à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et la repentance, quand Dieu dit qu'il se repent, il se repent, ça, c'est ne jamais dans le même sens que nous. Parce que nous, on se repent du péché, on se détourne du mal. Dieu ne peut pas se détourner du mal puisqu'il n'en a jamais fait de quelque façon que ce soit, il n'a même jamais conçu. Donc la gloire de Dieu. Dieu a agi et répondu souvent sur la base de la gloire de son nom. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous avez sûrement déjà remarqué à plusieurs reprises que Dieu a souvent fait des choses pas pour son peuple, pour la gloire de son nom. Il dit, si je vous détruis pas, là, c'est à cause de mon nom. Voyez-vous? Un exemple biblique dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 20, versets 7 à 9. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Regardez le verset 9. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom. Pour mon nom. Dieu fait une promesse, et quand il fait une promesse, il l'accomplit. C'est pour son nom. Accompli pour son nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, parmi lesquels ils se trouvaient, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voyez-vous, ici Moïse, il plaide intelligemment, il lui rappelle que c'est son peuple. Deuxièmement, il lui dit, c'est la question de son nom, il dit, les Égyptiens, quand ils vont entendre parler de ça, est-ce qu'ils vont dire quoi, là, si tu nous détruis tout? Ils vont dire, il les a fait sortir d'Égypte pour les détruire. Alors son nom aurait été comme... Seigneur a dit, j'agirai pas à cause que vous méritez quoi que ce soit, par grâce, mais c'est d'abord pour l'honneur de mon nom. Psaume 25, verset 11, « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Et troisième point qui fait pour plaider, pour implorer, c'est la fidélité de Dieu, verset 13. Et là, il revient au début, les promesses faites à Abraham. Il dit, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël et de Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même. » Qu'est-ce qu'il est en train de lui rappeler? La promesse. Dieu avait juré qu'il les fait sortir d'Égypte. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je vais parler et ils le posséderont à jamais. Il vient lui rappeler qu'il avait fait une promesse et il lui rappelle, comme Dieu, je sais que tu ne peux pas être infidèle à ta parole. La fidélité du Seigneur est absolue et inconditionnelle. Nous pouvons compter sur ses promesses et sur son serment. Hébreux 6, versets 15 à 18. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. On le sait, les Écritures nous disent, Dieu est vérité. Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, c'est toujours, toujours, toujours la vérité. Et ici, pour montrer à son peuple que la promesse qu'il leur avait faite, il vient par-dessus sa parole, qui, on sait qu'il ne devrait même pas, ça devrait même pas nous montrer à l'esprit que Dieu peut se tromper, que Dieu peut dire d'autre chose que la vérité. Et ici, il vient faire un serment par-dessus sa parole. C'est deux choses. Ça vient nous dire ici qu'il a fait les choses de façon immuable, et le serment est une garantie qui m'a fait leur différence. Et pourquoi vous la montrez avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment. Sa parole était déjà, il n'y aurait même pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit, puis ça aurait été suffisant. Mais pour, par condescendance pour son peuple, Dieu a fait le serment. Dieu qui fait un serment. C'est comme, déjà, quand il parle, je ne devrais même pas rajouter quelques questions que ce soit, mais s'il fait un serment par-dessus, c'est, il voulait montrer aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. L'immutabilité, ça veut dire que ça ne changera pas. Ce que Dieu a décidé de toute éternité concernant le salut de ses élus, ça ne changera pas. Et en plus de nous l'avoir dit dans sa parole, il vient ici nous dire qu'il l'a fait en plus pour nous, un serment en plus, c'est comme, ça ne bougera pas ça. Afin que par, verset 18, deux choses immuables, quelles sont les deux choses immuables? D'abord, sa propre parole, et deuxièmement, son serment. Sa parole est immuable, son serment par-dessus, c'est comme, impossible d'être plus que ça, là. Dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Notre encouragement est le suivant. Dieu ne ment jamais. Et en plus de ne jamais mentir, il a fait un serment. Alors, c'est deux choses qui devraient nous apporter un grand encouragement, comme ça le dit. Dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton Saint-Temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Comment on sait la bonté de Dieu? On a juste à lire toute la Bible, tout ce que Dieu a dit, soit que c'est déjà accompli, ou soit que ça va s'accomplir, soit on peut se fier là-dessus à 100%. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? J'en ai vu trois. Il y en a sûrement plus que trois. La première, je dirais que c'est de méditer sur la profondeur de notre corruption, de notre instabilité et de notre fragilité. Nous demeurerons ainsi dans l'humilité. Plus on va prendre conscience qu'on est corrompu à l'os, plus on va prendre conscience qu'on est faible, plus on va prendre conscience qu'on est fragile, plus on va avoir la tendance à se fier à Dieu, à aller au trône de la grâce pour aller chercher ce qu'on a besoin, et non pas se fier sur nous parce que on va s'écraser le nez souvent. Alors, ce que ça fait, ça nous maintient dans l'humilité. En voyant, et s'il dit que ça nous a servi d'exemple, si le texte est là pour nous servir d'exemple, pour nous donner une instruction, n'est-ce pas l'instruction que ça vient nous donner? On est faible, on est fragile, on peut facilement tomber. On a une tendance naturelle au mal. Deuxième application, la seule vraie religion est celle révélée dans les Saintes Écritures. La grâce souveraine de Dieu, la rédemption particulière de Jésus-Christ, la régénération irrésistible, la sanctification par le Saint-Esprit, la préservation des saints et la persévérance. La grâce, dans tous ses aspects. Aujourd'hui, la grâce, quand moi j'utilise le mot grâce, puis quand un curé catholique utilise le mot grâce, ou dans plusieurs milieux utilise le mot grâce, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on veut définir la grâce, quand on discute avec qui que ce soit et qu'on l'entend, oh, on est sauvé par grâce. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par grâce? Si les cinq points sont pas là, ce n'est plus la grâce biblique. C'est quelque chose de tronqué, c'est quelque chose de dilué. C'est très important de saisir que quand on discute de choses de la foi avec qui que ce soit, faut toujours définir nos termes, c'est le secret. Si vous ne définissez pas vos termes, vous allez sembler parler le même langage, vous allez utiliser les mêmes mots, mais les mots ne veulent pas dire la même chose pour l'un et pour l'autre. Alors, vous parlez, c'est un dialogue de sourds. À partir du moment que vous allez définir dans votre terminologie ce que vous entendez par rédemption particulière, ce que vous entendez par préservation des saints, persévérance des saints, là, c'est sûr que vous allez avoir des grincements de dents avec certaines personnes qui se disent chrétiens, peut-être le sont-ils, que Dieu n'aura pas encore ouvert l'intelligence à la pleine compréhension de ce qu'ils ont reçu, ça c'est possible. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on ne définit pas nos termes quand on discute de salut, parce que je l'ai entendu souvent, là, on discute avec quelqu'un, « Ah, on est sauvé par grâce. » Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, « C'est pas vrai. » Oui, c'est vrai, mais est-ce que le mot « grâce » veut dire la même chose? Définis-moi ce que c'est la grâce, et après ça, on en discutera. Et là, si tu y parles d'élection inconditionnelle, « Oh, ben là, c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui vient au Seigneur, c'est l'homme qui, comme ils disent en anglais, « walk down the aisle » pour répondre à un appel d'évangélisation. » On ne parle pas de la même chose. Si tu es en train de dire que Dieu choisit un nombre limité, déterminé, immuable d'hommes et de femmes qui, à travers le temps et l'espace, recevraient le salut de Dieu, je ne peux pas dire en même temps que les hommes peuvent, que c'est ouvert à tous les hommes, salut universel. Parce que là, je me contredis moi-même. À partir du moment que tu définis tes termes, c'est sûr que tu crées de la vague. Troisièmement, je dirais, plaçons notre absolue confiance en Jésus-Christ, notre merveilleux et glorieux médiateur. Tout est centré sur sa personne. Quand on est sauvé, ça veut dire que dans nos vies, on a fait une multitude de péchés, sous différentes formes, de différentes gravités, en pensée, en parole, en action, en omission, et même la Bible ajoute des péchés secrets dont nous ne sommes même pas conscients que nous les faisons. Et l'ensemble, même un seul de ces péchés-là, nous aurait valu d'être plongés vivants dans le lac de feu pour l'éternité. Alors, il y a deux solutions dans la vie. Ou notre péché, c'est nous qui va payer pour les conséquences, ou c'est quelqu'un d'autre. Et trouvez, je me répète souvent, mais je ne le répéterai jamais assez souvent. Dieu a jugé les péchés de ses élus dans son Fils et seulement ceux-là. Alors, quand on est sauvé, ça veut dire que nos péchés passés, présents, ceux qu'on va faire aujourd'hui, et ceux qu'on va faire demain, sont tous pardonnés. Mais est-ce que c'est une occasion pour nous de dire, ben si sont tous pardonnés, allons-y gaiement, péchons, parce que tous nos péchés sont pardonnés? Ça ne marche pas de même. Le Seigneur nous dit de ne pas changer la grâce de Dieu en dissolution. Et si on le fait, c'est peut-être un signe qu'on n'appartient pas au Seigneur du tout. Le Seigneur nous dit qu'après notre salut, il doit y avoir un changement, il doit y avoir une preuve, il doit y avoir des fruits. S'il n'y a pas de fruits, On peut se poser la question, quoique il y a seulement le Seigneur qui voit dans les cœurs. Ça, c'est sûr et certain. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on pense souvent que le salut, c'est juste que le Seigneur a pris nos péchés à notre place. Ça l'enlève la deuxième partie du salut, la justification. Pourquoi Dieu peut dire de moi, qui a fait une multitude de péchés en pensée, en parole, en action, en omission et en péché secret, que je suis juste? La justification, c'est une déclaration légale de la part de Dieu lui-même. C'est comme s'il aurait tapé avec son gros marteau, là. Il aurait dit, Marcel Longchamp est juste. Moi, juste. Pourquoi Dieu peut dire que moi, je suis juste? J'ai-tu obéi à sa loi tout le temps, à la perfection, tous les jours de ma vie? Jamais de la vie. Je suis juste en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a accompli la loi, le décalogue, la loi morale, et toutes ses exigences, il les a accomplies à ma place. Le salut, c'est substitutif. Il a subi le châtiment à notre place. Il a accompli les exigences de Dieu à notre place. Si on n'a pas les deux éléments, il nous manque un gros morceau dans le salut. Alors, plaçons notre absolue confiance en Jésus-Christ, notre merveilleux et glorieux médiateur, parce que lui, il a fait les deux parties. Il a à la fois payé nos péchés pour ses élus, il a à la fois accompli ce que les exigences de Dieu à notre place, la substitution. Merveilleux. Quand on comprend ça, on est tellement libéré. Je n'essaie pas de gagner mon ciel, comme on dit souvent chez les catholiques, par mes bonnes actions. J'entends souvent des personnes dire « Ah, bien, on a une bonne vie, ils font ici, ils font... » Oui, ils font ci, ils font ça, c'est vrai, je ne peux pas nier ça, là. Mais le Seigneur dit que toutes leurs œuvres sont comme un torchon souillé à ses yeux. Ça ne vaut rien. Notre justification, nos œuvres justes, ils sont en Christ. Tout notre salut est en Christ. Tant que Jésus-Christ a voulu payer pour nos péchés, que le fait qu'il a accompli la loi à notre place. Et après le salut, normalement, la voie normale d'un chrétien, c'est qu'il porte des fruits, qu'il produise des œuvres. Jacques ne nous dit-il pas, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, quand on est un chrétien, on se doit de porter du fruit, de se laisser diriger par la parole de Dieu, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Sinon, il y a peut-être des choses que la personne n'a pas compris encore, c'est possible. Que toute la gloire lui soit donnée à tout jamais. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci de nous avoir montré ce matin par ce passage combien nous sommes fragiles, combien nous avons la tendance au mal. Et Seigneur, tu nous as rappelé également que c'est par le médiateur que nous pouvons obtenir ta faveur. C'est par le médiateur que nous trouvons la paix, que nous savons que nos péchés sont pardonnés, que nous savons que tu nous vois comme si nous avions accompli la loi à la perfection durant toute notre vie sans avoir manqué une seule fois, comme Christ l'a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Permets qu'on comprenne cela de façon encore plus profonde, Seigneur, et permets qu'on comprenne aussi que la vie chrétienne implique l'obéissance, implique se détourner du mal et se repentir. Nous te demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.